Nous avons donc été aux sources de la déconstruction en essayant de définir ses origines et son... un peu plus fort, Clément. Et puis ses âges, ses différents âges. Cet après-midi sera consacré à l'examen des différents domaines qui se réclament de la déconstruction. Donc, nous aurons quatre tables rondes consacrées respectivement à la race, à l'islam, au gender et puis à la cancel culture. Donc, nous marquerons une très courte pause entre la deuxième et la troisième table. Donc, je commence en donnant la parole à Samy Biasoni, que je remercie d'avoir bien voulu animer la première table ronde sur la race.
Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, nous avons ce matin traité de la question fêtière de la déconstruction, déconstruction dont nos orateurs nous ont proposé une étude à la fois généalogique et épistémologique. Cet après-midi, comme nous l'a dit Emmanuel, nous ouvrons avec cette table ronde une session qui va nous permettre d'en explorer les domaines d'application. En l'espèce, avec nos trois grands témoins, et il s'agit bien de témoins, vous l'aurez noté, cette table ronde a un format un petit peu différent des autres, puisque nous n'intervenons pas en tant qu'universitaires, mais en tant que témoins, en tant qu'essayistes, analystes, experts du sujet. On devait être quatre, ou nous devions avoir quatre invités. Malheureusement, Boualem Sansal est souffrant. On pense fort à lui et n'a pas pu, malheureusement, pour ces raisons-là, être des nôtres. Alors, nos trois grands témoins sont tous essayistes, experts du sujet, avec qui nous allons aborder la question du retour de la race, notamment au travers des frictions et des ambivalences qui structurent le rapport complexe entre racialisme et néo-racisme. On ne peut, à mon sens, saisir les enjeux du retour de la race dans le débat public si l'on s'en tient à l'acception usuelle du terme, c'est-à-dire à son héritage issu d'une différenciation d'essence entre les individus. L'essentialisme biologique et hystérique d'un Gobineau et historique d'un Gobineau appartient désormais, c'est un fait établi, largement au passé. Nos sociétés ont plutôt pris le parti de Tocqueville, celui de l'unicité, l'unité de l'espèce humaine. Mieux, nous portons collectivement le noble projet d'un universalisme qui, à ce qui sépare les hommes, substitue l'idéal de la recherche d'un commun. Mais faute d'être parvenu à réaliser sa promesse d'égalité, ou tout du moins d'équité, l'universalisme qui sous-tend cet idéal se retrouve aujourd'hui battu en brèche, mis en cause pour ce qu'il est. Et c'est en partie ce qui nourrit le débat autour de la race, le retour de la question de la race dans nos sociétés. C'est cet échec qui suffit à justifier en lui-même la nécessaire déconstruction complète du système en place. Alors en guise de propos liminaires, je vais tâcher en synthèse, et vous pardonnerez les simplifications que je vais me permettre, d'expliquer la distinction mal connue entre les trois principaux mouvements intellectuels et politiques qui prennent la race pour objet, à savoir l'indigénisme, le décolonialisme et le postcolonialisme. Je pense que ce sont des notions qu'il est nécessaire de maîtriser pour pouvoir aborder les questions qui vont nous intéresser. Alors, il faut pour cela, et je vais le faire très brièvement, en revenir à la seconde moitié du XXe siècle, au moment où le processus de décolonisation connaît une nouvelle vigueur. En 1955, la conférence de Bandung marque définitivement la volonté des peuples colonisés à recouvrer leur souveraineté à la fois politique et culturelle. C'est au cours de cette même décennie que l'anthropologue français Georges Balandier propose de penser la colonialité comme catégorie d'étude en sociologie, comme domaine d'étude en sociologie. Et sur cette base, on peut distinguer deux approches académiques, certes toujours liées, voire parfois et trop souvent confondues, mais néanmoins historiquement, géographiquement et méthodologiquement bien distinctes, le postcolonialisme d'une part, le décolonialisme de l'autre. Le décolonialisme se développe en Amérique du Sud, à partir d'un questionnement politique portant sur l'hégémonie occidentale dans les domaines des savoirs, ainsi que sur ses traces et réminences sociétales. Le postcolonialisme, lui, correspond plus généralement à un ensemble épars de pratiques et de recherches traitant des conditions de domination symbolique, culturelle, représentationnelle ou systémique, inégalité sociale, discrimination, dérivée de l'époque coloniale. Le mouvement indigéniste que nous connaissons en France correspond quant à lui à une démarche militante bien plus récente qui hérite de ses courants de pensée, originellement académiques, et les détourne pour en faire des instruments de récrimination politique. Il se constitue en 2005 avec la fondation du Parti des indigènes de la République, le PIR, et il prend comme référence la période coloniale nord-africaine, dans le cas de la France, considérant que les enfants des populations immigrées originaires du Maghreb vivent aujourd'hui comme des indigènes au sein de la République, en vertu de la perpétuation insidieuse d'un ordre systémique comparable à celui que se sont vus imposer leurs ancêtres. Le racialisme contemporain auquel nos démocraties font face aujourd'hui se nourrit de l'ensemble de ces mouvements, il faut bien le comprendre. Il encourage une vision dissociative du corps social, non plus fondée sur les anciennes catégories analytiques que sont l'appartenance culturelle, religieuse ou de classe, mais sur le primat de la race. Et c'est de ce primat de la race que nous allons débattre aujourd'hui avec nos trois grands témoins. Pascal Bruckner, bonjour.
Bonjour.
Alors Pascal Bruckner, on devrait ne plus vous présenter, je vais le faire tout de même. Vous êtes romancier, vous êtes essayiste et intellectuel. Vous avez enseigné dans de nombreuses universités américaines, vous avez été maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris, élu à l'Académie Goncourt depuis l'année dernière, si je ne me trompe pas. Vous êtes auteur de très nombreux essais, mais pour le sujet qui nous intéresse, je vais en citer deux. Le premier, c'est « Le sanglot de l'homme blanc », qui paraît en 1983, où vous prophétisez l'évolution de la question de la race dans nos sociétés, et vous revenez plus récemment, en 2020, sur le sujet, avec un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Alors, Pascal Bruckner, vous avez été, comme je l'ai dit, l'un des premiers intellectuels à penser le retour de la race dans nos sociétés. Pouvez-vous partager avec nous votre analyse quant aux influences outre-Atlantique du phénomène racialiste, puisque c'est bien là qu'il s'implante, qu'il prend corps. Et j'aimerais vous interroger, notamment au travers de vos rencontres avec certaines figures tutélaires, dont l'écrivain James Baldwin.
Merci Samy, merci à Pierre-Henri, à Emmanuel Hénin pour cette invitation aujourd'hui. Alors effectivement, en 1984, j'ai rencontré avec des amis l'écrivain James Baldwin, qui s'était réfugié en France en 1948, et qui est mort d'ailleurs, qui n'est jamais retourné aux États-Unis, en tout cas pas pour s'y installer. Et pendant plusieurs heures, Baldwin nous a raconté pourquoi, en tant qu'Afro-Américain ayant souffert du racisme pendant toute sa jeunesse et tout son âge adulte, il avait choisi de s'installer en France. Et il donnait une raison principale, et il nous a expliqué que ce qu'il avait sauvé en France et à Paris, c'était l'indifférence des gens à son égard. Le fait qu'il soit noir ou le fait qu'il soit homosexuel laissait les Français complètement froids. Et il a dit « cette indifférence-là m'a sauvé ». Et bien entendu, des Français m'ont aidé, mais pas une fois j'ai eu droit à une remarque raciste. Et c'est d'ailleurs exactement le même discours qu'a tenu Josephine Baker en 1952, je crois, lors d'un congrès de la LICA, future LICRA, lorsqu'elle explique que quand elle est arrivée en France en 1930, quand elle hélait un taxi dans la rue, le taxi s'arrêtait. Quand elle allait au restaurant, on l'accueillait. Et quand elle allait voir un médecin, on ne la traitait pas de sale noire ou de sale négresse, mot qui la blessait horriblement. Bref, les Français l'ont traitée comme une femme parmi d'autres. Et Baldwin, au cours d'une très longue conversation, donc où il a surtout déversé sa haine des Américains, a eu une phrase qui m'est restée, que d'ailleurs il a reproduit dans un de ses essais. Les Français m'ont délivré des béquilles de la race. Les béquilles de la race, et ça je trouve que c'est très important, parce qu'effectivement, c'est ce avec quoi, outre-Atlantique, on pense désormais la question des rapports entre communautés, puisque l'un des problèmes de l'Amérique, dont elle ne sortira peut-être jamais, c'est qu'elle veut régler la question de la ségrégation en instaurant une sorte d'apartheid officiel. Je rappelle que dans les recensements nord-américains, chacun est défini par ses origines, par sa couleur de peau, par son orientation sexuelle, comme si finalement l'individu se réduisait à la somme de ses déterminismes, à la somme de ses qualités de naissance, sans jamais pouvoir s'en émanciper. Et donc, alors cette rencontre m'a évidemment frappé, d'autant que j'avais publié Le sanglot de l'homme blanc un an avant. Et puis, il se trouve que pour un magazine, je suis allé il y a un mois faire un reportage aux États-Unis sur ces Afro-Américains qui résistent au wokisme. Alors, a priori, c'est contre-intuitif. Tous les Afro-Américains devraient être en faveur du wokisme. Eh bien, il se trouve que dans l'élite afro-américaine, beaucoup de ces personnes sont opposés au wokisme. Et j'ai rencontré l'un d'eux qui s'appelle John McWhorter, qui est donc éditorialiste au New York Times, qui est enseignant à Columbia, qui est donc installé dans, on pourrait dire, dans l'establishment plus ou moins démocrate de la côte Est. Et il a écrit un livre qui s'appelle Woke Racism, donc le racisme woke. Et son analyse est très proche de celle qu'ont déjà donnée il y a longtemps Thomas Sowell, qui est aussi un intellectuel afro-américain qui a aujourd'hui 92 ans, ancien marxiste, ou Shelby Steele. Et pour John McWhorter, et ça je pense que c'est intéressant pour nous Français, le wokisme est une. D'abord, ça n'est pas un mouvement de pensée, c'est une religion qui distingue les élus des damnés. Et les élus, c'est la petite élite des Afro-Américains qui portent la bonne parole. Donc, ils pensent à Ta-Nehisi Coates, Ibrahim Zandi, ou la sociologue Robin DiAngelo, qui, je crois, n'est pas noire, mais qui est une des grandes prêtresses du wokisme, auteur du livre La fragilité blanche. Et donc, ce caractère religieux, pour John McWhorter, est très embarrassant, parce qu'il dit que cela s'assimile plus au revival de la religion protestante du 19e et du 20e siècle, un véritable mouvement politique. Et sa critique vis-à-vis des woke, elle est de deux ordres. La première, les woke infantilisent la communauté noire, c'est-à-dire qu'au lieu de l'inviter à se prendre en main, comme le faisait par exemple Malcolm X ou Martin Luther King, elle fait reposer le bien-être ou le malheur des Noirs entièrement sur la bonne ou mauvaise volonté de la communauté blanche. Et il dit, en faisant cela, les Blancs nous infantilisent, et en réalité, nous croyons qu'ils ont cédé une partie de leur pouvoir entre nos mains. En réalité, ils continuent à nous diriger, et c'est ça le piège dans lequel nous ne devrions pas tomber. Et la deuxième chose que souligne aussi John McWhorter dans son livre, qui n'est pas traduit en français, c'est qu'au fond, le wokisme reconstitue un nouveau racisme. Et il cite une phrase de Ta-Nehisi Coates, qui a écrit qu'il n'avait aucune compassion en tant qu'auteur. Ta-Nehisi Coates avait d'ailleurs vécu un ou deux ans à Paris, qu'il n'avait aucune compassion pour les pompiers blancs morts lors de l'attaque du 11 septembre, tout simplement parce qu'étant des blancs, ils portaient en eux la malédiction d'une race dévastatrice et abominable, et que pour laquelle il ne pouvait pas avoir la moindre pitié. Et pour John McWhorter, cette réflexion, ça s'appelle du racisme tout simplement, et qu'en voulant donc détruire le racisme, on en reconstitue un autre. Et McWhorter s'inspire lui aussi de Shelby Steele, qui a fait un essai en 2006 qui s'appelle White Guilt, la culpabilité blanche, où Shelby Steele explique là aussi déjà qu'en réalité, il n'y a rien qu'un blanc progressiste aime plus que d'avoir des amis noirs pour montrer à quel point il est antiraciste, à quel point il est libéral et à quel point, finalement, il est parfaitement au courant de la situation faite aux minorités dans son pays. Mais, dit-il, c'est encore un piège. C'est un piège dans lequel nous sommes enfermés ou nous enfermons nous-mêmes parce que cela interdit aux Afro-Américains de réfléchir aux problèmes qui les traversent et qui ne sont pas dus uniquement à la malignité ou à la malice de la communauté blanche. Et notamment Shelby Steele, comme Glenn Lowry, comme John McWhorter, explique qu'il y a un grand problème aux États-Unis, c'est la violence interne à la communauté noire, qui est une violence terrible, qui fait des milliers de morts chaque année, et qu'on ne peut pas attribuer uniquement au suprémacisme blanc. Et puis, dernier point que je voudrais souligner aussi, c'est Thomas Chatterton William, qui est un Afro-Américain, métis, qui vit à Paris, et que je connais, et qui a publié chez Grasset un autoportrait en noir et blanc, et qui explique qu'il est venu en France imbu des préjugés nord-américains, qu'il a eu des enfants avec une femme française, une blonde, et qu'il a été étonné de voir deux petites filles venir au monde entièrement blondes, et il a dit en quelques instants, tous les préjugés raciaux dans lesquels j'ai été élevé par ma famille et par la société américaine, ont disparu. Moi, noir, j'ai fait des enfants blonds. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui cloche dans la théorie critique de la race qu'on m'a enseignée à l'université et dans les médias? Donc, alors, tout ça pour dire quoi? C'est qu'effectivement, le wokisme, dont personne ne connaît vraiment la définition, si j'en crois une journaliste de Quotidien qui est venue me demander ça tout à l'heure, c'est vrai que c'est compliqué. L'éveillisme en français, Le wokisme traduit, c'est une branche très spéciale de l'antiracisme qui a besoin pour s'épanouir de désigner un objet de malédiction, et en l'occurrence cet objet c'est l'homme blanc, qui serait responsable non seulement de tous les malheurs de la société, mais de tous les malheurs du globe terrestre. La planète entière serait ravagée parce qu'un jour, une civilisation et une seule a décidé de coloniser le reste du monde, de créer l'impérialisme, de pratiquer l'esclavage, comme si évidemment l'esclavage n'existait pas en Afrique et en Orient depuis longtemps, et a donc mis le monde à feu et à sang. Et pour cette théorie-là, il ne pourra pas y avoir de société post-raciale si on ne passe pas d'abord par une société hyper-raciale, c'est-à-dire où la couleur de peau des gens, l'épiderme, leur orientation sexuelle ne sera pas soulignée et sur-soulignée, parce qu'il faut d'abord désigner le coupable avant de pouvoir espérer dans un monde réconcilié. Et donc, il me semble qu'il y a là une impasse complète, parce que plus on assimile les gens à leur épiderme, plus on les réduit à leurs origines, plus évidemment on les enferme dans une idéologie qui n'est pas sans ressembler beaucoup à l'idéologie coloniale, sans même parler à ce qui s'est fait en Europe dans les années 30, parce qu'au fond, les antiracistes aujourd'hui ont quand même des liens très forts avec un certain nombre de théoriciens du racisme des années 30. Quand, par exemple, je vais prendre un seul exemple, parce qu'il me vient à l'esprit, quant à Abou Aff, qui est donc un militant très engagé contre les violences policières, dit d'Éric Zemmour qu'il est sous-humain, moi je traduis en allemand, sous-humain Untermensch, et pour ceux qui ont de la mémoire, ça fait quand même un peu, ça fait une réflexion, Untermensch, c'est comme ça que les nazis qualifiaient les juifs, ainsi que les tziganes, ainsi que les slaves, et donc les antiracistes d'aujourd'hui ne cesseront jamais de nous surprendre. C'est quand même extraordinaire à quel point ils retrouvent rapidement les réflexes finalement de leurs ancêtres. Tout à l'heure, Samy Besonnier a parlé de Gobineau, de Vacher de la Pouge, on pourrait parler d'Alfred Rosenberg. Et donc c'est ce retour pervers que je crois nous devrions dénoncer avec vigueur, parce qu'effectivement derrière l'idéologie woke, en France comme aux États-Unis, il y a l'éternel retour de l'antisémitisme sous des habits neufs. Merci.
Pascal Bruckner, merci beaucoup. En plus, vous avez aménagé un espace de transition parfait pour le propos suivant, qui va être celui de Claire Koch. En précisant ce que, finalement, James Baldwin avait bien compris dans notre spécificité française, celle qui a fait notre fierté et qui, je l'espère, continuera de l'animer, ce sentiment de fierté, c'est ce que les Américains appellent la colorblindness, l'indifférence, le droit à l'indifférence à la couleur de peau, la cécité vis-à-vis de la couleur de peau. Et alors, aujourd'hui, cette cécité à la couleur de peau, elle est devenue traumatique, elle est devenue gênante, elle est devenue critiquable. Claire Koch, vous êtes journaliste, vous vous définissez comme une Française issue d'immigration, vous êtes l'auteur de Claire, le prénom de la honte, où vous relatez que lorsque vous avez voulu franciser votre nom, qui est d'origine turque, vous avez affronté le regard plus que réprobateur, puisque votre famille, une partie de votre famille a décidé de vous renier, ce qui est un acte singulièrement fort et ce qui rend votre témoignage essentiel pour comprendre les questions qui nous occupent. Je voudrais vous interroger sur ce phénomène qui est celui du retour à la race, c'est-à-dire la négation du droit à l'indifférence à la couleur de peau. Et donc, aujourd'hui pour vous, Claire Koch, comment le racialisme reprend ce thème de l'assignation identitaire et force l'assignation à la race?
Alors, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Alors, je vais bien sûr parler de mon cas personnel, qui n'est pas une généralité, mais à travers laquelle beaucoup de personnes vont se reconnaître, puisque je reçois énormément de témoignages dans ce sens depuis la parution de mon livre témoignage, qui est un essai. L'assignation à résidence identitaire, tout d'abord, moi personnellement, on n'a fait que me renvoyer à mes origines à chaque fois que je me suis présentée, quand on me disait, voilà, bon, et vous, comment vous appelez-vous? Claire Koch. Claire, à moi tu me la fais pas, c'est quoi ton vrai prénom? Ça, c'est d'une violence incroyable. C'est ça, l'assignation à résidence identitaire perpétuelle. Moi, c'est comme ça que je définis cela. Et c'est de la xénophobie. C'est-à-dire que parce que je suis d'origine étrangère, je suis issue de l'immigration, ma famille est d'origine turque, je suis issue d'une famille musulmane, eh bien, je n'ai pas le droit de me sentir française, d'adopter un prénom français, non pas pour m'intégrer ou pour prouver quoi que ce soit à personne. C'était parce que je me sentais française, moi. Et ça, c'est déjà arrivé dans le passé, sans vouloir me comparaître à ces illustres auteurs. Je pense notamment à Romain Gary, qui s'appelait Roman, à Marie Curie, qui s'appelait Maria. Il y a des exemples encore plus concrets, comme Anne Hidalgo, née Anna, ou encore Léa Salamé, qui est née Ala, et même Abdelmalik, le rappeur Abdelmalik. Nous avons grandi tous les deux dans une cité pauvre de Strasbourg. Lui venait du Neuf, et moi, je venais de Cronenbourg. Abdelmalik est né Régis. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se faisait, qui est tout à fait normal. Et effectivement, c'est le droit à l'indifférence et c'est le droit à l'assimilation à la française. Moi, c'est ce que je décris dans mon livre. Vouloir devenir français, parfois, souvent, on a envie aussi d'avoir un prénom français. C'est aussi simple que cela, loin des polémiques, loin de discours politiques. C'est aussi ça, la réalité de beaucoup de Français issus de l'immigration, dont moi. En fait, on me disait, en me renvoyant à mes origines, donc à cette résidence identitaire, cette assignation à résidence identitaire, on me disait en gros que je n'avais pas le droit de me sentir française, que je trahissais les miens, c'est-à-dire ceux de mon origine. Ça a commencé par ma famille, quand j'ai annoncé que j'avais changé de prénom en 2006, donc ça remonte à très longtemps, lorsque j'ai acquis la nationalité française, mes parents m'ont dit « Quoi, t'as choisi Claire comme prénom, mais la honte, quel prénom de merde !» Ça, c'était la première étape de leur réaction, de leur expression de ce rejet de la culture française, on va dire. Et ensuite, lorsque j'ai épousé mon mari en 2017, ma famille m'a totalement renié. Je les avais trahis. J'avais épousé un Français, en plus chrétien. Alors, il n'est pas du tout pratiquant, c'est pas du tout pour cette raison-là, c'est vraiment pour expliquer qu'il y avait un rejet total pour eux. Français était égal religion chrétienne. Donc ça allait encore plus loin que ce que j'imaginais. Donc je n'ai plus de famille. Pour avoir choisi, fait le choix d'être une femme libre, je suis journaliste, je suis libre, je suis indépendante financièrement. Aux yeux de ma famille ou de ma famille très patriarcale où c'était compliqué en tant que femme d'exister, de faire ses propres choix. J'avais, en fait, tout allait mal aux yeux de mes parents. Je ne faisais jamais ce qu'il fallait, comme ils voulaient. Donc, j'ai épousé mon époux, ce n'était pas bien. Donc, je n'ai plus de famille. Voilà, le prix de la liberté en France, ça existe aujourd'hui, il faut le savoir. Il y a des jeunes femmes et aussi des hommes qui, parce qu'ils ont fait leur propre choix de vie, eh bien, sont rejetés, ostracisés, méprisés. Donc ça, c'était auprès de ma famille. Et puis ensuite, il y a eu certains collègues, il y a eu des amis, ceux qui étaient des amis auparavant, ceux qui se présentent toujours comme des progressistes, qui me disaient « Mais quoi, t'as honte de tes origines ?» Mais moi, en fait, c'est ça que je ne comprends pas aujourd'hui, comment on en est arrivé là, de dire qu'on a envie de devenir français, ou qu'on aime ce pays, sa culture, sa gastronomie, enfin tout ça, vous voyez, en fait, ce qui m'a fait aussi, ce qui m'a sauvée, c'est d'une part parce que mes parents ne comptaient pas sur moi puisque je n'étais qu'une fille. C'était comme j'ai été élevée comme une étrangère, ça existe aussi en France, il faut le savoir. Il y a des familles qui sont complètement coupées de la culture française et de la vie en général de la France, de la vie politique, de l'actualité, je veux dire, au quotidien, ils sont plus au courant de ce qui se passe dans leur village ou dans leur ville d'origine et à l'étranger que ce qui se passe en France. Donc, tout ça, en fait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est assez compliqué parce que on ne vous autorise pas, en fait, à vous sentir pleinement français. Voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, bien sûr, je suis fière de mes origines, mais enfin, c'est pas le débat, c'est pas la question. Je porte pas mes origines en bandoulière, je pense pas à mes origines 24 heures sur 24. Je ne regarde pas dans le rétroviseur, j'avance, je voulais avancer, je voulais trouver ma place en France. Et ça passait bien évidemment par résoudre ces questions identitaires. J'ai un pays, c'est la France, et la Turquie, c'est le pays de mes ancêtres. C'est un pays que j'aime, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je vis en France, je vis ici. Ça, j'avais beaucoup de mal à l'expliquer à mes amis qui, en plus, se disaient progressistes. Et en fait, voilà, on me traitait de harki, je ne savais même pas que c'était une insulte, de traîtresse. de vendu, de nègre de salon. Je suis pas noire, hein, mais c'est des mots, c'est facile en fait. Maintenant, les formules sont toutes faites, on réfléchit même pas, on vous met ça sur le dos, sur la figure, et puis on vous condamne en fait, on vous réduit à vos origines et vous n'avez pas le droit d'être autre chose que vos origines. Voilà, donc c'est compliqué. En fait, il faut s'accrocher. Je me rends compte qu'être français aujourd'hui, être français d'origine ou vouloir devenir français, comme ce fut mon cas, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est compliqué. Et pourtant, il n'y a rien de plus naturel. Moi, je suis d'origine turque et je vois ce qui se passe en Turquie. Mais si j'avais été française d'origine, que je serais allée vivre en Turquie, comme mes parents l'ont fait, immigrer en Turquie, et que j'aurais décidé de devenir turque, mais on m'aurait brandi comme un modèle à suivre, on m'aurait félicité, on m'aurait donné, je sais pas, un bon point comme on donnait à l'école. Là, c'est tout l'inverse. J'ai un bonnet d'âne parce que c'est très grave d'aimer la France ou de dire qu'on aime la France. C'est quelque chose de si banal pourtant, mais j'ai l'impression de faire acte de résistance en fait. Je me sens comme une résistante parce que on m'a interdit de devenir française. Comment c'est possible dans ce pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, d'interdire à des personnes issues de l'immigration de simplement se sentir français ou française? Je voulais terminer, pardon, excusez-moi, parce que je suis désolée, vous disiez tout à l'heure l'assignation à résidence identitaire devenue une assignation à la race. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Un jour, il y a quelques années, lorsque j'étais en reportage à l'extérieur, sur le terrain, puisque je suis journaliste, il y a une consoeur qui, au bout de quelques minutes de discussion, m'a dit « Mais toi, en tant que non-blanche, je ne sais plus quel était le sujet, mais toi, en tant que non-blanche, je dis « Ah bon, je suis pas blanche ? Je l'ignorais que j'étais pas blanche. » Donc en fait, c'était ça pour elle, le fait de ne pas être français de souche, c'est eux qui vous ramènent à ça. Ce sont ces personnes qui se disent progressistes qui vous ramènent à ce que vous disiez, monsieur Bruckner, à l'instant, sur ce retour un peu à cette idéologie mortifère, à cette idéologie de différence des races. Donc en fait, puisque je suis d'origine étrangère, je ne suis pas blanche. C'est assez... assez effrayant, effarant.
Père Koch, merci beaucoup pour ce très émouvant témoignage, très juste, très vrai. Il illustre effectivement très clairement l'hyper-racialisation du débat, c'est-à-dire ce retour forcé à la race, pour les raisons que vous avez indiquées ou pour d'autres. Il faut savoir qu'on retrouve la terminologie que vous évoquiez, de collaboration quelque part, déjà dans les mouvements racialistes américains dès les années 60, même un petit peu avant. Dans l'opposition de style et d'approche, l'opposition politique entre Malcolm X et Martin Luther King, l'un était considéré comme un native informant, comme un nègre de maison, pour reprendre ce terme, par ceux qui considéraient qu'il y avait un racisme à combattre. C'est-à-dire que les antiracistes usaient d'une terminologie qui avait des consonances proprement racistes. Et cela choquait en France. Aujourd'hui, c'est devenu chose courante. Effectivement, on ne se cache plus du recours à des catégories qui ont des relents racistes, on ne peut pas les qualifier de racistes pour certaines, en tout cas terminologiquement, au nom de l'antiracisme. Et là, on est au cœur du paradoxe de l'inversion de la question de la race. Et puisqu'il s'agit d'inversion, je vais vous interroger sur ce qui paraît être peut-être le plus grand paradoxe du retour de la race, et notamment en France. La question de l'universalisme. Alors, Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes sociologue, chargé de cours à HEC Montréal. Vous avez publié de nombreux essais remarqués, dont L'Empire du politiquement correct en 2019, La révolution racialiste plus récemment. Vous êtes aussi chroniqueur, animateur en radio et en télévision. Et vous continuez à travailler sur les questions essentielles du multiculturalisme, du progressisme, de la mutation de l'imaginaire démocratique dans le monde occidental contemporain. Je vais vous céder la parole tout de suite et je vais vous demander effectivement de nous aider à mieux comprendre comment le néo-progressisme, le post-postmodernisme, le wokisme, on le qualifiera comme on l'entendra, comment cette nouvelle façon de penser voit dans l'universalisme un vrai racisme.
Oui. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors je chercherai à expliciter les mécanismes, appelons ça les structures de pensée qui conduisent les racialistes, qui conduisent en fait cette espèce de gauche, ce néo-progressisme, à présenter aujourd'hui l'universalisme comme le véritable racisme, parce que le masque dans les sociétés occidentales en général, en France en particulier, aux États-Unis aussi évidemment, comme le masque d'une suprématie blanche qui se voilerait en fait derrière les références à la laïcité et à l'universalisme. Alors pour ça, pour entrer dans cet univers mental, pour chercher à comprendre cette tournure d'esprit, on peut se tourner vers un auteur très influent aux États-Unis dans cette nouvelle gauche, qui est Ibram X. Kendi. Ibram X. Kendi, qui se présente comme historien, peut-être l'est-il aussi, qui a aussi écrit « Comment être, je n'ai pas le titre exact en tête, mais comment peut-on être antiraciste ?» Donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment antiraciste aujourd'hui? Il nous explique dans ce livre, notamment que « Comment peut-on être antiraciste ?» que le racisme classique, le racisme associé au Ku Klux Klan, le racisme qu'on pourrait associer aujourd'hui à la alt-right aux États-Unis, donc l'authentique extrême droite américaine, ce racisme serait à certains égards folklorique, serait secondaire, serait périphérique, ne mériterait pas notre attention véritablement. Pourquoi? Parce qu'il appartiendrait à une configuration mentale, à un univers, à une époque révolue. Le véritable racisme, nous dit-il aujourd'hui, ne tient pas dans ce racisme revendiqué, associé à des mouvements qui voulaient explicitement hiérarchiser la communauté politique et la société selon la couleur de peau. Non, le véritable racisme aujourd'hui consisterait justement à ne pas accorder d'importance à la question raciale. Pourquoi? Parce que, donc il nous dit, c'est la question du colorblind, la question de le refus de faire de la race un critère pertinent et constitutif sur le plan politique et sociologique. Il nous dit nos sociétés seraient fondamentalement marquées par la suprématie blanche. Alors, la suprématie blanche, ça ne réfère plus à l'Afrique du Sud, ça ne réfère plus aux États du Sud des États-Unis au temps de la ségrégation. La suprématie blanche serait le principe constitutif des sociétés occidentales depuis l'expansion européenne, depuis 1492. La suprématie blanche serait la vérité fondamentale des sociétés occidentales. Cette suprématie blanche serait dissimulée derrière une référence à l'universalisme, qu'il soit libéral ou républicain, qui viendrait servir au problème de recouvrement théorique, de recouvrement imaginaire qui masquerait la véritable nature de nos sociétés qui serait codée selon la suprématie blanche. Dès lors, pourquoi se tourner d'abord vers une critique de l'universalisme, une critique du républicanisme, une critique de la laïcité? Parce que ces idéologies, ces discours, ces philosophies, ces théories, ces pensées, serviraient en fait de masque pour nier la structure même de domination raciale qui caractériserait les sociétés occidentales. Dès lors, si on veut faire apparaître la domination raciale, si on veut faire apparaître les mécanismes de racisation, parce que dans leur esprit, encore une fois, la race est un construit social tel qu'ils nous le disent, et il y aurait donc des mécanismes de racisation, donc d'un côté les populations de souche en Occident qui se cacheraient derrière la neutralité et qui raciseraient les populations issues de l'immigration, de là l'utilisation du terme « racisé », alors, dans cet esprit, la condition première pour faire éclater la structure de domination raciale des sociétés occidentales consisterait à faire en sorte que chacun apparaisse dans l'espace public d'abord selon son identité raciale. Donc, c'est en remettant la race au cœur de l'espace public qu'il sera possible d'engager une véritable politique antiraciste. Bon. Dans cette logique, il y a une forme de partage qui s'opère très rapidement. D'un côté, il y a la majorité blanche, nous dit-on, et de l'autre, les minorités racisées. Et ce qu'il faut nommer, dès lors, c'est le privilège blanc. Le privilège blanc, concept dont on parle beaucoup de votre côté de l'Atlantique, mais plus encore du mien. Le privilège blanc, donc, autrement dit, c'est le simple fait qu'étant blanc, eh bien, on profiterait d'une série d'avantages, par la naissance dans nos sociétés, des privilèges qu'il faudrait déconstruire aujourd'hui au nom de la lutte antiraciste. Et là, on rentre dans une espèce de logique un peu étrange, j'en donne quelques exemples. Donc, qu'est-ce que c'est? Le privilège blanc qui repose sur la blanchité, par exemple, la blanchité qui est le fait d'être blanc. quand on lit, par exemple, Robin DiAngelo, qui est une des théoriciennes, certains diraient la papesse du mouvement, cette espèce de néo-antiracisme américain, on va nous dire, par exemple, c'est assez fascinant, que dans la blanchité, dans le propre de la conscience blanche, la suprématie blanche, il y aurait, par exemple, le souci de l'objectivité, la quête de la science, la ponctualité. Et là, on se dit un instant, cette personne est censée, puis on va appliquer la lutte contre la suprématie blanche à l'enseignement des mathématiques. Je vais vous donner un exemple. Là, on se dit, premier réflexe, un instant, ce discours qui consiste à associer au blanc la ponctualité, la raison, la science, la famille et la stabilité, est-ce que ce n'est pas reconduire les pires préjugés coloniaux et racistes qui existent au nom de l'antiracisme? Là, on se dit, il y a quand même quelque chose d'étrange. Donc, et on le voit, ça s'applique notamment à la question de l'enseignement des mathématiques. Vous me direz, où est-ce que je vais avec ça? Comme on dit chez nous, où est-ce que je vais avec mes skis avec ça? Eh bien, on va nous dire que, par exemple, qu'est-ce que l'enseignement des mathématiques selon la suprématie blanche? On va nous dire, c'est 2 plus 2 égale 4. La quête de la réponse objective. Qu'est-ce que l'enseignement des mathématiques pour rompre avec la suprématie blanche? C'est un questionnement sur la valorisation d'un questionnement 2 plus 2, qu'est-ce que ça fait? On peut toujours voir pour la réponse ensuite. Refus de cette... Alors là, il suffit de regarder ça comme une bulle idéologique, on se dit on est dans un délire. On reconduit, de ce point de vue, à l'endroit des populations non blanches, les pires préjugés qui ont pu exister à leur endroit dans le monde, mais cette fois au nom d'une logique décoloniale. Quoi qu'il en soit, donc on est dans cette espèce d'idée qu'il faut déconstruire la suprématie blanche, déconstruire les codes de la blanchité, donc déconstruire les référents occidentaux tels qu'ils sont entendus, au nom d'une émancipation de la diversité. Comment ça fonctionne? Eh bien, chacun doit donc, dans l'espace public, surtout si c'est une figure publique, mais un cadre dans l'entreprise, un cadre dans la télévision, un cadre universitaire, au nom de l'approche EDI, Équité, Diversité, Inclusion, au nom de cette approche, chacun doit désormais, puis il va y avoir quelquefois des formes de rituels orwelliens dans l'espace public, se désigner soi-même à la vindicte publique dans une forme de nuit du privilège blanc pour dénoncer son privilège blanc. Donc, comment ça fonctionne généralement? Parce qu'une fois qu'on a pris conscience du fait que derrière l'universalité factice de nos sociétés, il y aurait une structure de domination raciale, et une fois qu'on prend conscience qu'on doit soi-même s'arracher à cette structure de domination raciale pour rompre avec son propre racisme, parce qu'on l'a compris, il suffit d'être blanc pour être raciste, et le racisme ne peut qu'être blanc. Pourquoi? Parce que, naissant blanc, j'étais socialisé dans un environnement qui fait de la blanchité une forme de racisme naturel. Donc, dès lors, je dois me rééduquer. Je dois me rééduquer pour rompre avec le racisme. Je dois toutefois savoir que cette rééducation est condamnée à l'inachèvement. Car, comme nous dit Robin DiAngelo dans son livre « Fragilité blanche », rompre avec le racisme, c'est impossible d'y arriver à terme parce que c'est tellement profondément inscrit en moi, à la manière d'une tâche originelle, que voudrais-je rompre avec le racisme que je n'y parviendrai pas de mon vivant. Je suis condamné à une forme d'expiation sans rédemption. Mais ce que je peux faire, cela dit, c'est toujours dans la vigilance critique envers moi-même pour déconstruire toujours mes préjugés, mes biens inconscients, toujours déconstruire la suprématie blanche qui parle à travers moi. Une fois qu'on est dans cette logique, j'explore ici, je sais pas, vu de l'extérieur, tout ça peut sembler étrange. Mais n'oublions jamais que du point de vue des militants racialistes aujourd'hui, tout ça va de soi. Tout ça va de soi. On est dans l'univers des évidences d'un monde parallèle. Bon, eh bien, dans cette logique qui a de quoi nous inquiéter, chacun doit donc désigner son privilège blanc, s'autocritiquer. Hein, c'est la formule « check tes privilèges ». Bon. Une fois qu'on critique ses privilèges, et surtout quand on est dans une situation trouble, parce que quelquefois on n'est pas conscient d'avoir des privilèges, et là on trébuche sur ses propres privilèges, et là on est désigné à la vindicte publique, voilà un homme qui n'est pas conscient de son privilège blanc. Il doit se rééduquer. Que faire? C'est l'éternelle question des révolutionnaires totalitaires. Mais que faire alors? Eh bien, il faut premièrement dire « je viens de prendre conscience de mon privilège blanc ». J'y arrive tardivement. J'aurais voulu en être conscient plus tôt, mais je n'y arrive très tardivement, hélas. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Je vais me tourner vers mes amis racisés pour aller m'éduquer à leur côté, pour qu'ils me fassent prendre conscience de mes privilèges et pour que je puisse devenir leur allié. Mais je vais tout faire pour ne pas qu'ils aient à me rééduquer, eux, parce qu'ils portent déjà leur charge raciale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rééduquer moi-même. Donc, une forme de vigilance permanente de la conscience dans la rééducation. Et au terme de cette rééducation constante, eh bien, je voudrais, au terme de cela, devenir l'allié l'allié des populations racisées. Donc, une forme d'inversion dans leur esprit, dans la structure de pouvoir. Il faut se placer désormais comme allié dans une forme de rapport normatif inversé. Et comment puis-je être un bon allié? Mais d'abord, en acceptant ce rôle, en acceptant les consignes qu'on me donne, mais aussi en dénonçant ceux qui, parmi ma tribu, donc les Blancs, entre guillemets, n'ont toujours pas fait cette évolution vers la dénonciation de leurs propres privilèges blancs. Donc, je dois être en vigilance permanente, non seulement contre moi-même, parce que quelquefois, mon racisme intérieur pourrait remonter, même si je n'ai pas été capable de le contrôler, mais je dois aussi surveiller sur le mode de la vigilance critique ceux qui, autour de moi, ne seraient pas aussi évolués, pas aussi éveillés, pas aussi woke. Cette démarche, on l'aura compris, est une logique de rééducation. C'est une logique totalitaire à bien des égards. C'est une logique qui pousse chacun à l'assignation raciale obligatoire et qui va, et là, on a une forme d'inversion du vocabulaire. Orwell nous l'a dit, le propre du langage totalitaire, c'est l'inversion du sens des mots. Mais on va désormais nous expliquer, par exemple, que les fameux groupes raciaux non mixtes, et ainsi de suite, ce sont les groupes les plus antiracistes qui soient, parce qu'ils permettent à différentes minorités de se constituer comme groupes de pouvoir pour remettre en question les normes communes qui les invisibiliseraient. On nous expliquera, et là, on va plaider, par exemple, ça peut aller très, très loin. On va nous dire, par exemple, qu'on ne doit plus sélectionner les individus selon leurs qualités propres, mais en tant que représentants d'une catégorie ethnique ou d'une autre, pour arriver dans une société où on passe du principe de l'égalité des individus, l'égalité des citoyens, à une citoyenneté fondée sur une forme de ce que j'appelle le régime diversitaire, donc une sacralisation de la diversité où chacun est transformé, pour reprendre une ancienne formule d'Alain Finkielkraut, en échantillon représentatif. Alors, j'arrive au terme de cet exposé. Certains diront que c'est une forme de voyage en folie. Je crois que oui, à certains égards, mais il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux cette offensive théorique et idéologique, non pas parce qu'elle est fondée en réalité. Évidemment, je crois sincèrement que nous sommes devant un discours qui racialise les rapports sociaux, qui pousse les communautés les unes contre les autres, en fait, qui dénationalise, et ça, c'est le grand oubli, je crois, des 30 dernières années. Certains croyaient qu'en dénationalisant nos sociétés, on arriverait à une société d'individus émancipés. Erreur. Quand on dénationalise, le besoin d'appartenance continue d'exister. Et il se reporte sur la logique communautariste. Et la logique communautariste la plus forte aujourd'hui, c'est la logique racialiste, qui par ailleurs est soutenue de plus en plus par le multiculturalisme d'État, comme on le voit au Canada, notamment. On pourrait aussi appeler le « woke Canada ». Bon. Alors, une fois que tout cela est dit, pourquoi je pense qu'on doit prendre tout cela au sérieux? Le premier réflexe, on pourrait dire, de certains conservatismes bourgeois consiste à dire « Oh là là, que de folie, mais tout cela passera lorsqu'ils prendront un peu d'âge et un peu de bédaine. » Non. Ce qui se passe en ce moment, c'est que cette idéologie s'institutionnalise. Elle se normalise. On n'est plus dans un discours cantonné à la faculté de littérature comparée de l'Université d'Iowa. On est dans un discours qui est aujourd'hui dominant dans les grandes entreprises aux États-Unis. Apple, Microsoft, Ben & Jerry's, et ainsi de suite. Coca-Cola. C'est un discours qui est dominant dans l'entreprise. C'est un discours qui est dominant dans l'université, et pas seulement dans les départements de littérature comparée, et ainsi de suite, comme je le dis. C'est un discours qui structure l'administration universitaire, la possibilité d'avoir du financement dans des domaines comme la chimie, la recherche sur les lasers, la médecine, dépend du fait qu'on se soumet à cette idéologie dans la construction de ses équipes de recherche, dans la définition de ses objets de recherche. Alors, cette idéologie, elle est dominante. De ce point de vue, nous devons renouveler le pari haronien, qui est le plus beau pari qui soit, c'est-à-dire on le sait, Haron, d'avance dans son combat contre le marxisme, il prenait les textes au sérieux, il allait aux textes, il les lisait, il les décryptait, il répondait aux arguments, il ne se contentait pas de balayer ça par une formule rhétorique, par une formule polémique, il allait au contact du texte, il décryptait, il analysait, il critiquait, il répondait, et je crois que devant ce moment idéologique que nous vivons aujourd'hui, il nous est nécessaire d'entrer dans la tête de nos adversaires pour voir comment ils se représentent le monde, pour voir comment ils le comprennent, pour voir comment ils le théorisent, pour mieux ensuite y répondre au nom d'une philosophie autre, qui est une philosophie à la fois libérale et républicaine, c'est-à-dire une philosophie universaliste. Peut-être devrions-nous ajouter à notre réflexion une réflexion sur les conditions socioculturelles de cet universalisme possible et désirable, mais ce sera l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour ce tour de la question, je crois que Claire, vous
oui,
souhaitez réagir.
Oui, s'il vous plaît, je voudrais réagir sur le multiculturalisme. Et merci de l'avoir évoqué, Mathieu Bocoté. Je voulais juste rappeler qu'est-ce que le multiculturalisme. En fait, le multiculturalisme, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ce n'est pas toutes les communautés qui vivent ensemble dans la joie et la bonne humeur. C'est chaque communauté qui vit dans son coin et qui ne se mélange pas, qui reste dans sa culture, dans son environnement. Et moi, on m'a beaucoup présenté comme issue de la diversité. Et j'ai beaucoup, et je continue de lutter contre ça, parce que je ne suis pas issue de la diversité, je ne suis pas différente. Les personnes issues de l'immigration, en tout cas celles qui ont le désir et l'envie de s'intégrer et de s'assimiler, eh bien, elles ne sont pas différentes des autres. Il faut souligner non pas nos différences, mais ce qui nous rassemble, nos valeurs communes. Et la grande question qui se pose, sans faire de politique, moi je ne fais pas de politique, je raconte mon histoire, et à travers mon témoignage, j'espère que ça aura un impact. Aujourd'hui, comment on fait pour faire nation ? Avec toutes nos origines multiples, nos confessions, peu importe, c'est pas ça le plus important, c'est comment on fait pour aller de l'avant, comment on fait pour faire nation tous ensemble autour des valeurs communes, des valeurs républicaines qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste peu de temps, on va peut-être préciser un ou deux éléments qui ont été évoqués. Je voudrais d'abord vous interroger, Pascal Bruckner, sur le cheminement, la réputation de cette nouvelle conception de la race depuis le sanglot de l'homme blanc vers le bouc émissaire, depuis la haine de soi, ce que Finkielkraut appelle l'oïkophobie, oïkos, la maison, la haine de sa propre maison, jusqu'à la conception et l'acceptation par un certain nombre de personnes qu'elles sont dominantes et qu'elles doivent expier cette domination en acceptant d'être bouc émissaire. Comment, finalement, on chemine au travers de ces 20-30 dernières années ?
Je pense qu'on peut le comprendre par l'effondrement de la gauche. La gauche traditionnelle avait une vision sociale et politique du monde à travers la lutte des classes, et la lutte des classes a été supplantée par la lutte des races, tout simplement parce que la social-démocratie et le communisme sont en crise profonde. Alors le communisme est quasiment mort, sauf en Chine et à Cuba, mais la social-démocratie n'est pas en très bon état non plus. Et toute une partie de la gauche, au tournant des années 2000, s'est vue proposer une nouvelle vision du monde qui permettait à la fois d'englober l'anticolonialisme d'hier et de relancer la mise à nouveau frais en parlant du genre, de la race, de l'identité. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, une partie de la France insoumise, mais aussi d'autres, les Verts, le nouveau parti anticapitaliste, sont tombés dans l'idéologie woke parce que ce sont des munitions pour relancer le combat à frais nouveaux. Mais en réalité, le fond de l'affaire n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que depuis 1983, et depuis les luttes anticoloniales et le tiers-mondisme, il s'agit toujours, que ce soit à l'intérieur de nos pays, en Europe et aux États-Unis ou à l'extérieur, de désigner le monde occidental comme étant le coupable par excellence, celui qui, je le disais tout à l'heure, a mis le monde à feu et à sang et qui, de toute éternité, sera montré du doigt, sera soumis à la vindicte, ce qui permet de faire passer un certain nombre de phénomènes. J'ai parlé de l'esclavage, mais évidemment, on oublie de dire que l'Europe n'a pas inventé l'esclavage, elle a inventé l'abolition. C'est en Europe que les idées abolitionnistes sont nées, et c'est l'Europe la première, le Portugal en 1770, qui a aboli la traite et l'esclavage. Je rappelle que le dernier pays africain qui a aboli l'esclavage, c'est le Niger en 1999 ou en 2000. Qu'il a à la fois aboli et criminalisé. Quant au phénomène impérial et colonial, là aussi, c'est étonnant. Si on prend le cas de l'Algérie, et tout ça est un peu lié aussi au problème de la race, les Algériens dénoncent le rôle de la France et le fait que la France aurait commis un génocide de l'identité algérienne, selon les mots de Bouteflika, mais sur les 3 siècles de domination ottomane, rien n'est dit, puisqu'au contraire, les Turcs avaient comme avantage d'être musulmans, et donc leur domination était douce, elle était bénéfique, elle était humaniste, elle était tendre, celle des Français était abominable. Et donc, sur la culpabilité de l'Occident, de vieux empires qui regrettent d'avoir disparu, ou de nouvelles formes politiques autocratiques comme la Chine, peuvent s'innocenter et opposer à la brutalité et à la barbarie blanche leur caractère de nation angélique et intouchable. Et je pense qu'au fond, c'est ça, l'enjeu s'est déplacé à travers la question de la race, mais il s'agit toujours de dire que un peuple et un seul, une race et une seule, ou un continent et un seul, est responsable de toute la misère du monde, que ce soit sur le plan climatique ou sur le plan politique. Et donc, finalement, l'homme blanc est invité, là aussi, à battre sa coulpe, à s'excuser. Et donc, pour nous, exister, c'est expier. Et expier ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la haine des Blancs, c'est avant tout un phénomène des Blancs. Il n'y a rien que les élites blanches aiment mieux que de se flageller, que de se piétiner en disant « oui, nous sommes des salauds ». Je prendrai un exemple, Rosanna Arquette, que vous connaissez tous, l'actrice américaine, se trouvant peut-être au chômage, a expliqué en 2019 qu'elle avait honte d'être née blanche, que pour elle c'était une malédiction et qu'elle voudrait tout faire pour inverser la chose. Alors, est-ce que c'est sincère ou non? Mais en tout cas, ça dit bien que seuls les blancs fortunés, les élites blanches, et Mathieu en a parlé tout à l'heure, et les grandes entreprises blanches militent activement, plus encore que les minorités, pour maintenir cette culpabilité blanche. Je rappellerai deux petits faits. La première, c'est que le New York Times, en 2020, a décidé d'écrire noir en majuscule et blanc en minuscule. Alors ça, si ce n'est pas du paternalisme typographique, ce n'est pas de la condescendance méprisante, qu'est-ce que c'est? Et puis je rappelle qu'au moment de l'affaire George Floyd, au printemps 2020, L'Oréal a décidé de bannir de sa gamme de produits tout ce qui était clair, clarté, blanc, blanchiment, parce que évidemment, tout d'un coup, cette couleur ou toutes les couleurs approchantes étaient devenues maudites. Donc le wokisme, l'éveillisme, comme on en parle, c'est vraiment l'alliance d'une idéologie majoritaire dans les élites et du grand capitalisme qui, évidemment, y trouve un second souffle et permet d'élargir sa clientèle. Je rappelle que beaucoup de nos militants woke, à commencer par Assa Traoré et Rokhaya Diallo, sont les émissaires de grandes marques, que ce soit Louboutin ou Valentino, et ce qui ne devrait pas nous étonner, parce qu'il y a là une conjonction de deux phénomènes qui se marient parfaitement ensemble.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Je vais simplement vous poser une dernière question. Vous donnez l'un et l'autre une dernière fois la parole. Je vous en prie, Claire, et puis ensuite je vous interroge.
Merci beaucoup. Je voulais rebondir effectivement sur ce que vous veniez de dire, Monsieur Bruckner, et moi j'ai l'impression en fait que tout cela... Pardon. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Monsieur Bruckner. Moi, j'ai l'impression, c'est mon point de vue personnel, que tout cela a créé des citoyens de seconde zone, à savoir les Français d'origine, mais plus particulièrement ceux qu'on appelle de la France périphérique, qui sont les mauvais pauvres et les mauvais blancs.
Si vous voulez intervenir sur ce sujet.
Un dernier mot, simplement, sur non seulement le racialisme, on l'aura compris, est moralement condamnable, mais j'ajouterais qu'il est scientifiquement bête. Pour un exemple tout simple, c'est ne serait-ce que pour comprendre les sociétés occidentales. Les sociétés occidentales, quoi qu'on en dise, ne se sont pas institutionnalisées à partir de la couleur de la peau, à partir du blanc. Si on dit du monde occidental qu'il est blanc, on apprend ou on assimile le blanc nécessairement à la suprématie, le blanc nécessairement à la domination. Eh bien, j'aimerais vous raconter l'histoire des Irlandais. J'aimerais vous raconter l'histoire des Baltes. J'aimerais vous raconter l'histoire des Québécois. Il y a quelque chose d'un peu étrange qui rend inintelligible l'histoire de nos civilisations. Tous les Blancs ne sont pas interchangeables. Les Russes ne sont pas des Ukrainiens, à ce que j'en sais. Les Irlandais ne sont pas des Anglais ou des Écossais. Les Français ne sont pas des Allemands. Les Québécois ne sont pas des Canadiens, ne l'oubliez jamais. Alors, autrement dit, définir par la couleur de la peau rend inintelligible tout ce qui différencie vraiment les peuples entre eux, ce qui relève du langage de la culture. Or, le propre de la culture, c'est qu'on peut se l'approprier. Quelle que soit notre origine, on peut s'approprier une culture. J'ajoute, soit dit en passant, que tous les Noirs ne sont pas interchangeables entre eux, hein, et tous les Asiatiques ne sont pas interchangeables entre eux. Le langage de la race, se substituant au langage de la culture, non seulement nous pousse à l'enfermement sur le mode identitaire le plus régressif, mais plus encore nous condamne à ne pas comprendre le génie de l'espèce humaine qui se dévoile justement par la diversité des cultures.
Je crois qu'on ne saurait mieux conclure. Donc arrêtons-nous sur ces beaux mots, chargés d'espoir et de lucidité. Merci.